VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du Monde Aujourd'hui du 25 avril 2016. Avec vous en direct de Washington, Georges Léonard Sagno et Anastasie Tudiech. Tout d'abord les titres, Georges.
En Guinée équatoriale, vote dans le calme pour des élections dont les résultats ne font guère de mystère.
Au Tchad, une disparition inquiétante, celle du chef d'un parti de l'opposition. Où est Mahamat Ahmad Lazina?
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'OMS annonce que 6 pays africains pourraient avoir éradiqué l'affection d'ici 2020.
Au Niger, la société civile organise sa résistance après la réélection de Mahamadou Issoufou.
Nous reviendrons aussi sur la disparition de la star de la musique congolaise et africaine, Papa Wemba.
Et puis tout à l'heure, nous avons rendez-vous avec la Minute Éco et les sports. Mais tout de suite, c'est le journal. Les Équato-Guinéens ont donc voté hier dans le calme pour une présidentielle. Teodoro Obiang-Nguema était face à 6 candidats, mais les résultats sont comme connus d'avance. Tatiana Mosso.
Aucun incident n'a été signalé pour ce scrutin qui a été placé sous haute surveillance par les forces de sécurité. Monsieur Obiang-Nguema est à la tête d'une coalition de 10 partis, dont le Parti démocratique de Guinée équatoriale au pouvoir. Ses 6 adversaires sont de nouveau venus en politique ou ont très peu de poids. La principale coalition de l'opposition a appelé au boycott, estimant que toutes les conditions étaient réunies pour des fraudes et que le résultat était connu d'avance. Geronimo Osaosa-Ekoro, secrétaire général du parti au pouvoir, promet une victoire à plus de 90% pour le chef de l'État sortant. Obiang-Nguema n'a pas donné de pourcentage, mais a assuré qu'il gagnerait. À la dernière présidentielle en 2009, il avait obtenu plus de 95% des suffrages. Les résultats, qui risquent d'être sans surprise, sont attendus jeudi.
Au Tchad, le chef d'un parti politique de l'opposition a disparu depuis une semaine. Mahamat Ahmad Lazina est le président national du MNCT, le Mouvement national pour le changement au Tchad. L'annonce de sa disparition a été faite hier par son parti au cours d'un point de presse, n'est-ce pas André Kolbadjigar?
Selon le secrétaire chargé de la presse et à l'information du MNCT, Ibrahim Abdraman Ahmad, son président Mahamat Ahmad Lazina était sorti de la maison familiale le 19 avril 2016 aux environs de 8h du matin, heure de N'Djamena, pour se rendre au siège de son parti. Et depuis ce jour, sa famille biologique et ses compagnons de lutte n'ont pas de ses nouvelles. Et cette sortie médiatique vise à alerter l'opinion nationale et internationale sur les démarches entreprises auprès des commissariats de la sécurité publique CSP de tous les arrondissements de la capitale. Ibrahim Abdraman Ahmad.
Nos recherches nous ont permis de découvrir sa voiture au CSP 17 de Toukra le jeudi 21/4/2016. Nous sommes surpris d'entendre au niveau du commissariat que Lazina est détenu dans ce lieu mais s'est évadé dans la nuit. Personne de ses responsables nous a situé sur sa position exacte, encore moins sur ce qu'on lui a reproché. Pendant ce temps, le président Lazina est coupé de toute communication.
André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Deux soldats maliens sont morts dans une embuscade tendue sur la route Tombouctou-Goundam par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés. Ça n'est pas une première dans cette zone, mais cette fois-ci, les militaires ont pu envoyer du renfort rapidement, limitant ainsi les dommages. C'est ce que nous explique Kassim Traoré.
Les forces armées et de sécurité du Mali ont été victimes une fois de plus d'une embuscade tendue à 35 km de Tombouctou, près de Tintelout, vers les environs de 15h samedi dernier. Le bilan provisoire était de 2 soldats blessés qui ont fini par succomber à leurs blessures à Tombouctouville. Cette fois-ci, les FAMA ont pu limiter les dégâts car les renforts ont quitté rapidement Tombouctou pour les lier. Bien avant cette embuscade, il y avait des menaces qui pesaient dans la zone. Des véhicules suspects ont été aperçus et ensuite disparus dans la nature. Mieux, toutes les embuscades tendues à Tombouctou se passent sur la route Tombouctou-Goundam. Pour certaines populations, ce sont des éléments radicaux du MLA qui ne veulent pas l'application de l'accord. Ces derniers continuent de faire des actions de ce genre. Souvent, ils pillent même dans les villages de Goundam. C'est pourquoi les populations souhaitent le plus rapidement que possible le cantonnement des ex-combattants des différents groupes armés. A signalé qu'à Goundam, un éleveur de la fraction de Keltabug a été abattu par balles réelles par des inconnus. Son corps a été retrouvé par les militaires maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les États-Unis ont accusé hier le gouvernement du Soudan du Sud d'être un obstacle à la fin de la guerre civile. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Selon l'envoyé spécial américain au Soudan du Sud, Donald Bouff, c'est la troisième fois cette semaine que le retour de Riek Machar à Juba a été contrecarré. Selon lui, Machar est responsable de l'échec des deux premières tentatives. À la dernière minute, il avait exigé un renforcement de sa sécurité et des armes lourdes supplémentaires. De son côté, le gouvernement de Salva Kiir a réclamé au dernier moment une vérification des armes que portaient les 195 hommes accompagnant M. Machar, vérification dont s'étaient déjà chargés des officiers éthiopiens. Samedi, c'est le gouvernement qui a fermé l'aéroport. Le chef rebelle est attendu aujourd'hui à Juba. Donald Bouff a prévenu que le Conseil de sécurité devait se réunir demain mardi et que les deux parties pourraient être visées par de nouvelles sanctions. Il a ajouté que le monde entier attend d'eux qu'ils respectent leurs paroles et mettent en œuvre l'accord qu'ils ont signé en août dernier.
Aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. À cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport qui expose l'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 contre le paludisme, c'est-à-dire l'éradication de la maladie dans un certain nombre de pays d'ici 2020. Lueur d'espoir, si le continent africain reste le plus durement touché par cette affection, 6 pays pourraient l'éradiquer d'ici l'an 2020. Il s'agit de l'Algérie, du Cap-Vert, du Swaziland, du Botswana, de l'Afrique du Sud et des Comores. D'après l'organisation, le paludisme a touché 214 millions de personnes dans le monde et en a tué 438 000 en 2015. La même année, 88% des cas de paludisme et 90% des décès dus à la maladie sont survenus en Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, la Syrie a replongé dans la guerre après 8 semaines d'accalmie. Hier dimanche, les bombardements entre le régime de Damas et les rebelles syriens ont fait 26 morts à Alep. Le président américain Barack Obama appelle au rétablissement du cessez-le-feu, Georges.
Oui, Anastasie, depuis vendredi, au moins 63 civils ont été tués à Alep. Dimanche, des obus tirés par les insurgés contre les zones gouvernementales ont tué 10 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En représailles, le régime de Damas a effectué des raids sur les zones tenues par les rebelles, tuant au moins 16 civils. Le président Barack Obama, en visite en Allemagne, a appelé à rétablir le cessez-le-feu qui était en vigueur depuis le 27 février. Il a indiqué s'être entretenu dans ce sens avec son homologue russe Vladimir Poutine. M. Obama estime que la solution doit être trouvée par les négociations. Mais à Genève, les discussions indirectes entre les parties syriennes font du surplace. Elles doivent en principe se poursuivre jusqu'à mercredi, mais l'opposition au sein du Haut Comité des négociations a suspendu sa participation formelle. Ajoutons qu'un haut responsable américain a indiqué à l'AFP que le président Barack Obama annoncera aujourd'hui l'envoi d'environ 250 militaires américains supplémentaires en Syrie. Anna.
Au Yémen, plus de 800 membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués dans l'offensive militaire lancée contre le groupe djihadiste dans le sud du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la coalition arabe qui opère dans ce pays sous commandement saoudien. Les forces yéménites appuyées dans les airs par la coalition arabe ont repris hier Moukalla dans le sud-est. La ville était aux mains d'Al-Qaïda depuis début avril 2015, c'est ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable militaire. L'Arabie saoudite et les Émirats sont les deux piliers de la coalition arabe intervenue militairement au Yémen en mars 2015 en soutien au gouvernement du président Abdrabo Mansour Mahadi dans sa guerre contre les rebelles chiites houthis qui sont eux soutenus par l'Iran. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, bien implantée au Yémen, et le groupe djihadiste État islamique ont profité du chaos créé par la guerre pour élargir leur influence dans le sud et dans le sud-est du pays.
En Australie, un adolescent de 16 ans a été interpellé hier et inculpé pour préparation d'un acte de terrorisme. Il doit être présenté dans la journée à un tribunal pour mineurs, selon les services antiterroristes de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le jeune homme était soupçonné d'avoir projeté un attentat lundi en Australie lors des cérémonies de l'Anzac Day en hommage aux soldats tombés pour la patrie. Un coup de filet pour les services antiterroristes avait déjà été effectué avant l'Anzac Day en 2015, quand 5 personnes avaient été interpellées avant que 3 d'entre elles ne soient donc rapidement remises en liberté. Les renseignements australiens estimaient qu'en février, que 110 Australiens se trouvaient alors dans les rangs de l'EI en Syrie et en Irak. et que jusqu'à 49 auraient trouvé la mort dans ce conflit. L'Australie a été le théâtre de 3 attentats depuis qu'elle a relevé en septembre 2014 le niveau d'alerte antiterroriste au cran le plus élevé.
Tout autre chose, littérature à présent en France avec le prix Louis Guillou qui récompense chaque année un écrivain doté, je cite, d'une dimension humaine, d'une pensée généreuse, refusant tout manichéisme, tout sacrifice de l'individu au profit d'abstractions idéologiques. Et ces idées sont dans l'esprit de Louis Guillou, né et mort en Bretagne. Le prix a été attribué ce week-end à l'écrivain haïtien Mackenzie Orcel pour son roman L'ombre animale, publié aux éditions Zulma. Remarqué lors de sa parution en 2012, de son premier roman Les Immortels, qui faisait entendre la voix des prostituées de Port-au-Prince au lendemain du terrible tremblement de terre qui a secoué en 2010 l'île Caraïbe, le jeune auteur haïtien, né en 1983, donne cette fois-ci encore la parole à une femme. Créé en 1983 par le département breton des Côtes d'Armor, le prix Louis Guillou a notamment été décerné à l'Algérien Boualem Sansal, au Haïtien Lionel Trouillot ou encore à la Franco-Camerounaise Léonora Miano. L'année dernière, le prix avait été attribué pour la divine chanson à Abdourahman Waberi, né à Djibouti et qui partage sa vie entre la France et les États-Unis.
Merci Anastasie, c'était le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Place à la Minute Éco maintenant avec vous, Claire Morin-Gibourg.
86 milliards de francs CFA vont être attribués aux PME. C'est l'annonce qu'a fait Daniel Cablan-Duncan, le premier ministre ivoirien, à la clôture de la CGECI Academy à Abidjan. La cinquième édition de ce forum économique consacré aux entrepreneurs ivoiriens a donc porté ses fruits. Ces fonds accordés dans le cadre du plan Phoenix doivent permettre d'accorder des facilités de prêt aux PME de la Côte d'Ivoire. Le beurre de karité a le vent en poupe au Burkina Faso. Le groupe français Olvea va investir 2 milliards de francs CFA dans une nouvelle usine de production de beurre de karité à Bobo-Dioulasso. Selon l'agence APA, cette nouvelle usine aura une capacité de traitement de 12 000 tonnes de noix de karité par an pour une production de 7 000 tonnes de beurre bio. Installée au Burkina Faso depuis 2006, Olvea coopère avec un réseau de plus de 20 000 coopératives et associations de femmes pour la collecte des noix de karité.
C'était la Minute Éco. Merci Claire Morin-Gibourg. Place au sport maintenant avec Élisée Ungpatine. Et pour démarrer cette page des sports, Élisée, on commence avec du futsal. Le Maroc remporte la CAN 2016?
Oui, pour la première fois de son histoire. Il faut dire que les Lions de l'Atlas ont battu en finale les Pharaons d'Égypte 3-2, menés au score à 2 reprises. Le Maroc a fini par faire la différence en deuxième partie et s'offre ainsi son premier trophée dans cette compétition. Pour la petite finale, c'est le Mozambique qui sort vainqueur et accompagne du coup le Maroc et l'Égypte pour le prochain mondial qui aura lieu en Colombie.
Sur la pelouse cette fois, éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans et les matchs du premier tour retour ont eu lieu le week-end écoulé.
Et ça passe pour l'Éthiopie qui confirme son succès du match aller 2-0 face à la Somalie. Qualification également de la Namibie, succès à domicile 2-0 après un nul, un partout à l'aller au Swaziland. Le Zimbabwe a validé son billet en s'imposant 2-0 au Botswana qu'il avait emporté au match aller. Autre qualification, celle de l'Ouganda et de la Sierra Leone qui défieront au prochain tour, respectivement l'Égypte et le Maroc. Enfin, la Guinée passe aussi malgré son nul 1-1 face au Libéria qu'il avait battu à l'aller 2-0.
La suite des résultats, Élisée. L'île Maurice ne sera pas au second tour.
Effectivement, ce malgré sa victoire à domicile 2-1 face au Mozambique. Le but encaissé à la maison en impôt quelque chose puisque battu 1-0 à l'aller. Ça ne passe pas non plus pour le Niger face à la Tunisie. Le Mina Junior battu 3-0 à l'aller se contente d'un nul, un partout. Au retour, insuffisant pour affronter le Sénégal au second tour. Et puis, grosse déception pour l'Algérie. Les Fenech Juniors n'iront pas à cette CAN puisque éliminés par la Mauritanie. On rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations Juniors aura lieu en Zambie.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. C'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudiech. Tout de suite, nos dossiers du jour. Et nous commençons en République démocratique du Congo. La musique africaine est en deuil. Le chanteur congolais Papa Wemba est mort hier en plein concert sur la scène du Fémua en Côte d'Ivoire. Notre confrère Roger Muntou a recueilli le témoignage de Maury Touré, journaliste qui était dans la foule quand la star s'est effondrée sur scène. Écoutons leur échange.
Un grain est tombé.
Maury Touré, vous étiez présent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le concert a pris un retard. Et c'est à 5h du matin pile que Papa Wemba est monté sur scène. On était un tout petit peu surpris. Nous qui connaissons Papa Wemba, son répertoire, quelques amis, quelques journalistes. Il avait commencé avec trois titres très dansants. On a dit, mon Dieu, le vieux va casser la baraque aujourd'hui. Lui qu'on connaît très rustique, rumba, slow, romantique. Et donc c'était Ka Kokorobo. Cette chanson qui est, je crois, sur l'un des albums enregistrés par Real World, par Peter Gabriel, dans les débuts 90, tous les journalistes de la presse internationale étaient tous en face, en train de danser comme des enfants. Et on est reparti. Il a enchaîné encore avec du soukous. Et bien voilà, c'était ça qu'il voulait nous donner. Ce dernier tour de sang, le vrai Congolais, le sapeur, l'ambianceur. Roger, j'ai les larmes, je pleure, mon papa. Dans le jargon, un artiste ne meurt jamais. Papa est mort, le micro à la main. Et on n'oubliera jamais cette image de papa derrière ces musiciens qui s'écroulaient, les musiciens qui continuaient à danser, pensant que papa nous faisait encore un tour de magie ou encore un tour de chorégraphie. Non, hélas, et papa est tombé et il ne va plus se relever.
Qu'est-ce que Papa Wemba représentait pour la musique africaine?
Après Franco, Rossoro qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, Papa Wemba était la personne emblématique de cette rumba congolaise-là.
La nouvelle du décès de Papa Wemba a, on l'imagine, suscité une très vive émotion à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Notre confrère Thierry Kambundi, de notre partenaire Radio Top Congo, a pu le constater.
Je l'ai connu en tant que musicien, surtout sur le film de Nabala Kabibi, avec Emoro, Pepe Kale, Kabasele. C'est à ce niveau-là que j'ai découvert Papa Wemba. J'ai été une fois dans son concert, vers les années 80-82. Mama Tongue, dans un concert. Lui, c'est un grand monument, comme Luambo Makiadi, comme Taboulé. Lui est mort, mais la musique reste. On le verra à travers sa musique toujours.
J'ai eu l'occasion de parler avec lui au plateau de la télévision, dans une chaîne de télévision ici à Pigeon. J'ai parlé avec lui dans notre langue. C'était Tétéla comme moi, j'ai parlé avec lui à Tétéla. Il m'a répondu quelques mois à Tétéla et en plus à Lingala et en français. C'est un artiste que j'aimais beaucoup, vraiment. J'ai même pleuré quand j'ai entendu la nouvelle de sa mort.
On a perdu un grand artiste, il a servi le pays et l'Afrique. Mes condoléances à sa famille.
Papa Wemba a été un excellent artiste. Personnellement, moi, il m'a donné envie de faire la musique parce que moi, j'aime beaucoup la musique. Mato Imanga, Opesango, Ambargo, Yaba, je t'aime.
Je sais pas quoi dire parce que je suis émotionné.
La chanson de Papa Wemba que j'aimais bien et que je continue à aimer, c'est Est-ce que yo banzaka penga yo? J'aime bien sa belle mélodie phrase parce que je me retrouvais et je me retrouve jusqu'à présent.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Niger, les organisations de la société civile, regroupées au sein d'un collectif dit « Résistance citoyenne », prévoient une série d'actions en ce début de semaine pour, disent-elles, restaurer la démocratie dans le pays, au lendemain des scrutins qui ont consacré la réélection pour 5 ans du président Mahamadou Issoufou. Une journée ville morte le jeudi, des prières collectives le vendredi et une marche suivie de meetings le samedi. Ces actions interviendront après l'interdiction pour des raisons sécuritaires par les autorités d'une manifestation du même collectif le dimanche dernier. Plus de précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Malgré l'interdiction, l'itinéraire qui était annoncé pour aller au lieu du meeting a été fortement militarisé ce dimanche matin. Mieux, deux véhicules de policiers avaient été positionnés à la devanture du siège de l'association Alternative Espace Citoyen où se tiennent les réunions du collectif Résistance Citoyenne. Abdoulaye Seydou, un des responsables.
Cela montre une fois de plus que nous sommes plus que jamais dans une dictature et qui nous réconforte, n'est-ce pas, dans notre logique de nous battre pour véritablement la restauration de la démocratie. Donc ces mesures d'intimidation ne nous font ni chaud ni froid, mais au contraire ne font que renforcer notre conviction.
La veille de la marche où l'interdiction leur a été notifiée, les responsables du collectif ont annoncé une nouvelle marche pour le samedi prochain, marche qui serait précédée jeudi d'un appel à une ville morte dans la capitale, mais également une prière collective le vendredi.
Les actions que nous projetons la semaine prochaine vont avoir lié et seront véritablement et sonneront le coup d'éclat pour une restauration de la démocratie et une démocratie véritablement populaire qui consacre plus que jamais la souveraineté du peuple nigérien.
En rappel, le collectif Résistance Citoyenne avait appelé à cette manifestation pour restaurer la démocratie au lendemain d'élections que ses membres qualifient de mascarade électorale. Mais dès l'annonce, beaucoup d'observateurs avaient estimé que la date choisie, le 24 avril, journée nationale de la Concorde, n'était pas indiquée et avait alors prédit l'interdiction. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Burkina Faso, les 100 premiers jours du président Roch Kabore laissent des impressions diverses. Le think tank Burkina International vient de livrer les résultats d'un sondage national bilan. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Les 100 premiers jours de Roch Kabore passés au scanner par la société civile burkinabé. Après l'opposition politique, ces organisations font part des résultats mitigés. Dernière en date à s'y essayer, le think tank Burkina International, qui lui est allé sonder les populations dans les 13 régions du pays sur l'action gouvernementale post-transition. Haruna Kabore en est le président.
Les résultats donnent effectivement une note de 6 sur 10 pour le président du Faso, une note de 5,4 sur 10 pour le Premier ministre et puis une note de 5,6 pour le président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi des questions liées effectivement donc, aux priorités des Burkinabés. Donc on voit effectivement donc, que la santé vient effectivement donc, en tête. Nous sommes allés nous poser la question pour savoir qu'est-ce que les populations pensent des différentes décisions gouvernementales sur le recrutement donc, des enseignants, la gratuité des soins. Ils ont fortement apprécié ces différentes mesures-là.
En rapport avec les mesures de gratuité des soins obstétricaux et les recrutements d'enseignants pour le primaire et le collège, les organisations de la société civile les ont, les unes après les autres, dénoncées. C'est le cas de Marcel Tankwano, président du mouvement du 21 avril M21.
On ne peut pas former quelqu'un au bout de 6 mois pour aller enseigner des enfants. Et encore avec un salaire vraiment tout à fait précaire, ça ne va pas. Si je prends encore la gratuité des soins, aujourd'hui on dit c'est gratuit. Tu arrives à l'hôpital avec ton enfant, puisqu'on a dit les femmes enceintes, les bébés. Vous arrivez, votre bébé est malade et que le médicament qu'on a dit de donner gratuitement n'existe pas, mais l'ordonnance qu'on va te donner, est-ce que tu pourras avoir le médicament dans les pharmacies gratuitement?
Désiré Ginko, du cadre de concertation des OSC, n'y va pas de moins morte.
Durant ces 100 jours, ce gouvernement a passé tout son temps à tâtonner, à se focaliser sur la gestion de la transition en longueur de temps, au lieu de chercher à répondre aux aspirations populaires.
Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Rémi Danguino, il faut savoir comprendre les premières mesures du président Roch Kabore.
Les premières mesures qui ont été prises sont des mesures d'urgence, qui vise effectivement à répondre à une attente et à donner également un signal très fort. Et s'inscrit dans le cadre donc de ce qui a été pensé en termes de programme présidentiel qui est devenu le programme de gouvernement de notre pays. Mais il faut comprendre que d'autres mesures viendront.
Différents points de vue qui, cependant, ont le point commun de polariser une attention particulière de l'opinion nationale sur les premiers faits et gestes d'une administration Kabore plus que jamais attendue en cette période post-transition. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, les établissements scolaires publics font face régulièrement à des grèves et autres débrayages. À l'origine des crispations, la mésentente entre les syndicats de l'enseignement et le gouvernement, le point d'achoppement étant souvent les finances. Et pourtant, le ministre de l'Éducation le martèle, il n'y aura pas d'année blanche. Sorna Natambay nous en dit plus.
Le système éducatif sénégalais est dans l'impasse avec des grèves répétitives. Les syndicats et le gouvernement se sont entendus sur plusieurs points et ont signé des accords. Mais voilà, plusieurs revendications n'ont pas été prises en charge, surtout celles liées aux différentes indemnités. Serigne Baïtia, ministre de l'Éducation nationale, reconnaît la responsabilité du gouvernement, mais demande aux enseignants de lâcher du lest.
Je pense qu'il y a une introspection à faire. Le gouvernement a la responsabilité de ne pas devoir de l'argent aux enseignants et de respecter les engagements qu'ils prennent. Les enseignants ont aussi la responsabilité, tout en manifestant leur mécontentement, tout en faisant des revendications, de changer ou de modifier les formes de lutte qui permettent à nos systèmes éducatifs de profiter des investissements qui sont en train d'être effectués.
Mamadou Lamine Diante, le coordonnateur du grand cadre des enseignants, parle d'un manque de volonté de l'État. Plusieurs délais ont été donnés pour le respect des accords et aucun d'eux n'a été respecté, selon lui. Pour ses camarades syndicalistes, l'heure est venue de dire la vérité. Babacar Mar, professeur d'anglais.
Je crois que ce que le président doit faire, c'est de faire face aux enseignants et de dire exactement ce qu'il en est. Pour construire un pays, il faut une bonne santé et une bonne éducation. Mais on est là à nous mépriser, on est là à nous menacer, on est là à dire des contre-vérités. Je suis découragé jusque dans mes os.
Sur le terrain, élèves et personnels des administrations scolaires observent impuissants. C'est le cas de cette directrice d'une école élémentaire.
Cela nous inquiète en tant que chef d'établissement. Parce que nous nous soucions de la réussite de nos enfants, de nos élèves.
La question a été maintes fois agitée. Y aura-t-il une année blanche ou une année invalide? Le ministre de l'Éducation nationale rassure.
C'est pas possible. C'est pas une grève continue. C'était des grèves perlées. Le maximum de jours de grève que nous avons constaté, parce que le nombre de jours de grève varie d'un établissement à l'autre. C'est entre 5 jours et 12 jours à peu près. Je pense que d'ici quelques jours, vous verrez vous-même qu'il y aura une décrispation dans ce secteur-là et que les cours vont reprendre.
Les rencontres se multiplient ces jours-ci entre syndicats et autres médiateurs, tels que le Haut Conseil du Dialogue Social. Pour les enseignants, tout dépend du gouvernement. C'est à lui de sauver ou de sacrifier l'année scolaire en cours. Sorna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La Bruxelles, référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï. Saï 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 saï, on dirait bonne année. Les soirs, saï saï, saï saï, saï saï, on dirait fêtier.
Bolivie, la Nalwanda, chez ATT, coin Ikeleba, Nakasabubu, Kuna, point final.
Palaki Kitoko, Malassine Lamba, des dînes s'offirment avantageux.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui avec la musique de Papa Wemba. C'était Sai Sai, extrait de l'album Nouvelle Écriture en 1997. Merci à Georges Léonard Sagno pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Assistée à la console de Cornelius Tenner. Un grand merci également à toute la rédaction. Je suis Anastasie Tudiech et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Sai, sai, on dirait fêtier.
King Service Express à Jean-
Sakini.